Veillez, dis-leur. Et tout de suite, le message se dessine. Surtout, nous recommande Jésus, n'oubliez pas la fin de votre vie. En effet, l'humanité est mise à l'épreuve ici-bas, comme des serviteurs à qui un maître a confié d'énormes responsabilités. Notre vie se déroule sous le signe d'un Dieu qui nous paraît absent, comme retiré, toute l'initiative à ses créatures. Et à cette fin, il confie à ses trois serviteurs des talents. Au premier, 5, au deuxième, 2, au troisième, 1 seul. Mais avant d'aller plus loin, demandons-nous, quelle est la valeur d'un talent, qu'il soit d'or ou d'argent? Il vaut environ 6 000 deniers, c'est-à-dire une petite fortune, l'équivalent du salaire de 6 000 journées de travail. Le divin maître nous fait confiance. Il remet entre nos mains une gestion qui ne sont pas les nôtres, mais ceux du Créateur. Le fond de la parabole ne porte pas d'abord sur le bon usage de nos dons personnels, bien que ce souci ne soit pas à éluder. Il s'agit surtout de notre coopération active au royaume de Dieu, à l'aune des grâces que chacun a reçues, qu'il s'agisse d'une parole de sagesse, ou d'une parole de science, ou de discernement des esprits, comme l'évoque saint Paul dans la première aux Corinthiens. On peut se demander quels sont les talents que je suis seul à pouvoir faire fructifier, et pour lesquels Dieu m'a donné les qualités et les grâces nécessaires. Vais-je les faire valoir en bon serviteur que je suis, ou les enfouir comme le mauvais serviteur? Et tout de suite, on devine que la pointe de la parabole pèse sur celui qui a trahi la confiance de son maître. C'est après une longue absence que le maître revient. Comme si Jésus voulait nous laisser organiser notre vie, comme si Dieu n'existait pas, nous abandonnant ainsi à la tentation de nous endormir. Il avait l'honneur de nous demander des comptes, comme à des êtres adultes et responsables. Par un certain respect, et même un respect certain pour sa créature qu'il a voulu libre et responsable de ses décisions, de son agir, et cela relève de la sagesse divine, source de notre propre sagesse. Et là, le style est volontairement solennel, car il ne s'agit pas d'un maître ordinaire. On l'appelle Seigneur, mot qui, dans la tradition biblique, est réservé à Dieu. Comme les deux premiers serviteurs ont agi selon ses désirs et dans l'esprit qu'il attendait, ils sont introduits dans la joie de leur Seigneur, comme les vierges sages de la parabole précédente. La curiosité est en éveil, car encore une fois, quel va être le sort du troisième, dont nous savons qu'il a enfoui le talent de son maître? Et c'est là la pointe de la parabole. Qu'est-ce qu'il cherche? Pensant qu'elles vont le dédouaner, contribue au contraire à noircir son cas. Cherchant à son maître de moissonner là où il n'a pas semé, à ramasser là où il n'a pas répandu le grain, il commet le pire des péchés parce qu'il dénature l'image de Dieu, qu'il considère comme un tyran inaccessible et dangereux. Au lieu de reconnaître en lui un Dieu plein d'amour et qui fait alliance avec l'homme. Aussi, ce serviteur ne sera pas condamné parce qu'il a refusé d'obéir ou qu'il a été paresseux, mais parce qu'il s'est fait de Dieu une idée complètement inverse de ce que Dieu est en réalité. Il a eu peur de Dieu. Or, cette attitude envers Dieu peut toujours, d'une manière ou d'une autre, être la nôtre, si nous évitons, par manque de courage, le beau risque de la foi, qui nous fait prendre souci, non seulement de nos intérêts à nous, mais surtout des intérêts de Dieu, qui nous fait miser notre vie pour lui, pour que ses biens fructifient. Amen.